bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence si nombreux pour cette nouvelle rencontre au Café de la Librairie pour laquelle nous avons le grand plaisir ce soir d'accueillir Paul Ardenne. Alors, merci beaucoup de votre venue à Dialogue. Et cette rencontre sera animée par l'artiste Marie-Michèle Lucas à qui je vais céder la parole d'ici une minute. Mais avant cela, je voulais vous dire que cette rencontre s'inscrit dans un projet collectif qui est intitulé « De la nature » et qui est porté par l'association Espace d'apparence. Alors depuis 2021, ce projet y réunit des artistes, des scientifiques et des expertes et experts qui tous interrogent la notion de nature et la relation de l'être humain à celle-ci. Donc c'est dans ce cadre que Paul Ardenne est présent cette semaine à Brest pour plusieurs rencontres. Il y en a eu à l'université, aujourd'hui à Dialogue, demain au Centre d'art contemporain Passerelle. Et donc c'est un événement qui s'est construit collectivement grâce à ces différentes structures. Donc je tenais à remercier l'association Espace d'apparence et Marie-Claire Raoul en particulier qui nous a permis d'organiser cette rencontre ici. Donc il y a donc le centre de Passerelle à l'université, c'est le département art et le laboratoire héritage et construction dans le texte et l'image qui ont préparé ce projet. Et c'est aussi un projet qui est soutenu par le ministère de la Culture Drac Bretagne et le conseil régional de Bretagne. Voilà, je vais tout de suite laisser la parole à Marie-Michèle Lucas et puis je vous souhaite une très bonne rencontre et une belle soirée.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là à ce rendez-vous avec un romancier, un historien, un théoricien d'art contemporain, commissaire d'exposition, blogueur ou encore un observateur, commentateur et créateur qui pose un regard attentif sur le monde qui va. Bonjour Paul Ardenne. Je poserai des questions tout à l'heure sur les vœux que vous pouvez formuler sur cette année 2023. On verra, ça sera la conclusion, si vous permettez. Vous dévorez la vie avec l'ivresse de la passion et la gourmandise des grands aventuriers. Vous brûlez de la gomme sur l'asphalte. Vous êtes motard. Vous aimez la moto et peut-être aussi le tracteur, puisque vous avez aussi creusé les sillons des champs de votre campagne charentaise. C'est là que vous avez grandi. Vous faites partie des piliers que nous consultons, nous, la petite communauté d'étudiants et artistes de l'art contemporain. Image Corse nous fait référence, l'art contextuel aussi, et depuis quelque temps quand même, art et écologie. Un livre qu'on se dispute puisque le mien est passé entre pas mal de mains. Nous sommes le 9 janvier 2023, la température est en chute libre et tant mieux, parce qu'on a un peu la sensation d'avoir l'hiver qui nous arrive. On a un vent frais quand même, des vents violents. Merci à Dialogue aussi de nous laisser le temps de la rencontre autour de votre œuvre et merci au public de venir vous entendre en vrai. Dans un premier temps, évoquons un œil qui scrute attentif aux émergences artistiques. Après un parcours entre études d'histoire et philosophie, vous voilà à l'orée du 21e siècle doté d'une thèse sur l'art contemporain. Comment et pourquoi entre-t-on en art contemporain ?
De moi, beaucoup de gens essentiellement très occupés et je suis toujours très sensible au fait qu'on puisse accorder de l'attention à d'autres personnes. Donc, je le dis sincèrement, je trouve ça... Voilà, je ne sais pas, je parle dedans, mais si ça ne fonctionne pas, je ne fais rien. Plus près. Voilà. Oui, comme ça ? Oui, très bien. Voilà, oui, c'est...
On n'entend pas.
On n'entend pas. Ça vaut peut-être mieux, hein, vous savez.
Oui, alors là, par contre, oui, on m'entend. Bien, bon, je voulais juste
vous
remercier
si
vous n'avez pas entendu, et d'autant plus que moi, je suis sensible au fait qu'on accorde de l'importance à autrui dans ce monde où, au fond, on a souvent si peu de temps pour soi-même, donc merci. Alors, la question était, comment on finit par s'intéresser à l'art contemporain ou
surtout quand on vient du monde agricole.
Oui, c'est pour faire mentir peut-être quelqu'un comme Pierre Bourdieu, ce sociologue que vous connaissez, bien, très grand monsieur, évidemment. J'ai eu le plaisir de croiser il y a bien longtemps et de lire beaucoup quand j'étais plus jeune. Pierre Bourdieu, vous savez, parle de ce qu'on appelle l'habitus en sociologie, c'est-à-dire le milieu dans lequel nous naissons, nous grandissons, avec cette idée que finalement ce milieu nous conditionne, bien sûr, c'est évident, mais il nous détermine aussi, il nous détermine socialement. Et au fond, si vous naissez dans une famille de paysans au fin fond de la Charente, qui compte un certain nombre plutôt très élevé d'enfants, voilà, avec des revenus modestes, eh bien, vous viendrez au mieux ouvrier agricole ou agriculteur. Et effectivement, j'ai pu échapper à ça. Alors, non pas que je voulais y échapper, mais c'est parce que, simplement, dans une famille nombreuse, on n'est pas toujours le premier. C'est mon frère aîné qui a pris la charge de la ferme. Voilà. Je l'aurais bien fait, personnellement, j'aurais bien aimé, mais bon, ça ne s'est pas décidé comme ça. J'ai dû y travailler, mais pas pour diriger. Et en fait, moi, je suis un enfant de la République, hein, je le dis humblement. Je suis un enfant des bourses scolaires, je suis un enfant de... tout simplement du soutien républicain aux gens qui ont peu de moyens, ce qui m'a permis d'engager des études, si vous voulez. C'est aussi bête que ça, et pouvoir les mener, parce que finalement, on vit encore dans un État qui a le souci de la solidarité et du partage. Et ça m'a permis d'éviter l'habitus, justement, dont parle Pierre Bourdieu, à savoir, étant né dans un milieu, être condamné à rester dans ce milieu, d'une certaine façon. Voilà.
Mais quand
c'est
même,
ça, l'histoire, en fait, tout simplement.
Mais quand même, l'art contemporain, parce que là, ma question, elle est précise. Pourquoi cette entrée dans l'art contemporain?
Alors, moi, je me suis mis à étudier, si vous voulez, je ne peux pas raconter tout le détail, mais bon, chacun, on a tous une vie très, très complexe, avec parfois des tours, des détours, des dérives, etc. Mais bon, j'ai commencé par les lettres et la philosophie. On parlera des lettres peut-être tout à l'heure, un peu plus tard. Et puis, pour des raisons simplement matérielles, pour pouvoir trouver un emploi, j'ai étudié l'histoire. Parce que, bon, le duo de mon âge, ça ne vous dit rien, mais il y a une quarantaine d'années, quand on voulait du travail, il y avait des études qui permettaient plus facilement de passer des concours. Et c'était le cas de l'histoire. Quand vous aviez une licence d'histoire, vous pouviez passer énormément de concours dans les postes, enfin dans les services publics, la police, etc. Donc la justice. Bon. Voilà, donc du coup, j'ai fait des études d'histoire qui m'ont fasciné. J'ai mené très, très longtemps, d'ailleurs, jusqu'à des études supérieures, des recherches supérieures, thèses et autres, agrégations, toutes ces choses-là. Mais d'une certaine manière, quelque chose dans l'histoire, au bout d'un moment, m'a insatisfait. C'est très curieux. Et c'est lié à une odeur, vous connaissez peut-être, c'est l'odeur des archives. Vous voyez, c'est très curieux, ça peut vous faire sourire, mais quand vous êtes chercheur en histoire, vous devez justement aller dans des services d'archives pour faire, évidemment, pour dépouiller des liasses qui parfois n'ont pas été ouvertes pendant des siècles, avec cette espèce d'odeur pugnace comme ça qu'il y a sur le papier, vous voyez, qui est très curieuse. Et cette odeur, au bout d'un moment, c'est pas vraiment l'odeur du pourri, c'est pas vraiment l'odeur des greniers, c'est quelque chose d'autre, vous voyez. Et ça m'a, d'une certaine manière, curieusement éloigné de l'histoire. Ça peut être bizarre, hein, c'est une histoire d'odeur, vous voyez, parfois.
Pas du tout, parce que...
Une odeur vous éloigne de ça. Alors, comment l'histoire de l'art? C'est une grande question que je me suis posée moi-même, parce que quand vous étudiez l'histoire, vous étudiez les faits. On est bien d'accord, les faits. On essaie de retrouver ce qu'ont été les faits d'une époque. Ce n'est pas facile, hein, croyez bien. Bon, mais on essaie. Les historiens essaient de faire ça. Et quand vous étudiez l'art, vous étudiez l'histoire, mais des représentations. C'est-à-dire non plus les faits, mais la manière dont on représente ces faits. C'est-à-dire dont on les met en images, vous voyez, dont on en fait des textes, on en fait des poèmes, des pièces de théâtre, des bandes dessinées, etc. Vous rentrez dans le champ de l'esthétique et de la création esthétique. Donc c'est très curieux. C'est-à-dire vous n'êtes plus dans le cœur du monde, dans la chair du monde. Vous êtes dans le spectacle du monde, la mise en spectacle du monde. Alors, personnellement, je n'ai jamais très bien compris pourquoi j'avais fait ce glissement. Je dois vous le dire. Et je peux rappeler qu'en 2012, il y a 10 ans, j'avais été... on m'avait aimablement demandé d'être directeur artistique d'un festival important en art contemporain à Toulouse qui s'appelle le Printemps de Septembre. Et j'avais choisi le thème de l'histoire. L'histoire est à moi, point d'exclamation. Donc, j'avais regroupé des artistes d'aujourd'hui qui travaillaient sur la question de l'histoire, comment ils percevaient les faits, les choses qui se passent. Est-ce qu'ils adhéraient? Est-ce qu'ils étaient contre? Est-ce qu'au contraire, ils étaient indifférents? Ils disaient, ça ne m'intéresse pas. Bon, il y a multiples positions par rapport aux faits historiques, bien évidemment. Voilà. Mais j'en ai profité pour écrire un livre qui s'appelle « L'histoire comme une chair », dans lequel j'essayais moi-même de répondre à cette question. Pourquoi passer du monde des faits au monde du spectacle des faits? Vous voyez, c'est très curieux. Je n'ai pas vraiment trouvé la raison. Ça peut vous paraître bizarre, mais voilà. Alors, il y a une raison technique, et là, un peu lâche, hein, je veux dire, c'est un peu la lâcheté qui me caractérise. c'est que moi, j'ai commencé dans le monde de la culture en écrivant des textes de fiction, des romans. Bon. J'en écris beaucoup, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai perdu beaucoup de temps à écrire des textes comme ça dans mon enfance, et c'était toujours très difficile, parce que créer des mondes, c'est très difficile, inventer des mondes, même si par ailleurs on est totalement conditionné, et on parle souvent tous à peu près de la même chose, mais c'est difficile. Mais je me suis rendu compte qu'en écrivant sur des artistes, sur des expositions, par exemple, en les décrivant, en faisant des catalogues, par exemple, je me suis rendu compte que c'était incroyablement facile, parce qu'entre inventer un monde et commenter le monde des autres, croyez-moi, il y a un écart formidable. Hein, c'est quelque chose d'inimaginable. Inventer un monde, c'est ben vraiment c'est un travail sur soi, c'est un travail de vie. Commenter le travail du monde, c'est un travail comment dire, l'invention. Commenter l'univers de quelqu'un d'autre, ben c'est un travail de documentation. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Et donc, au fond, je me suis dit, je vais choisir la deuxième voie, peut-être parce que c'est plus facile. Vous voyez que la création. C'est comme ça. Et puis comme j'étais un écrivain raté, donc ça tombait très bien. J'écrivais des tas de romans. Je passais des journées entières à écrire des romans au lieu d'aller à la plage à La Rochelle. J'avais tous mes amis qui allaient à la plage. Je souffrais toute la journée pour écrire trois lignes qui n'avaient aucun sens, aucun intérêt. Je me disais, c'est absolument stupide. Autant écrire sur l'art.
Vous voyez, je ne vais pas poser mes questions, moi. Vous voyez, voilà. Comment c'est parti. Donc c'est vrai que l'homme est prolifique. Il écrit beaucoup. Et effectivement, le roman, moi, m'a assez troublé dans votre parcours. Alors, quand même, plusieurs remarques. Vous avez écrit donc cette somme qui est parue, ça doit être l'art contemporain au XXe siècle.
L'art contemporain, c'est en 97.
En 97, ans, oui. Et donc qui est un peu en lien avec votre thèse sur le même sujet.
Oui,
donc là, c'est une somme où vous observez un peu ce monde. C'est-à-dire que c'est un peu l'entrée, votre entrée en matière dans l'art contemporain.
Pas vraiment. J'y suis rentré 10 ans plus tôt. En fait, à la fin des années 80, tout en ayant une activité littéraire donc, qui ne fonctionnait pas du tout. Donc je rassure hein, ceux qui sont...
On y reviendra, parce qu'on a quand même quelques romans à vous présenter.
Ceux qui sont en échec littéraire, n'ayez pas peur, ça peut durer longtemps, mais ça peut aussi s'arrêter, vous voyez. Bref, n'ayez pas peur, hein, comme disait je ne sais plus quel pape, qui nous disait Jean-Paul II, si mes souvenirs sont bons. Voilà, bien. Alors, je ne sais plus trop où on en était. Ah oui.
Savoir ce que cette somme-là sur l'art contemporain a pu apporter pour la suite. Vous avez fait un espèce de tour d'horizon. Oui. Et ensuite, vous avez quand même creusé des parties, notamment un art contextuel qui parle de l'espace public.
Oui, je reviens juste sur la question de l'art contemporain. En fait, moi, j'aimais l'art. Tous les historiens épousent l'art. On est obligé. L'histoire est la discipline la plus complète qui soit. Et la plus difficile aussi pour cette raison, parce qu'il y a une histoire des événements, bien sûr, il y a une histoire politique, il y a une histoire sociale, il y a une histoire économique, il y a une histoire des sciences et des techniques, il y a une histoire du droit, une histoire juridique, bien évidemment, des institutions, puis il y a une histoire de l'art qui fait partie de l'histoire. Bien évidemment, c'est la culture, hein, c'est comme ça. Tout moment d'histoire s'esthétise, il se donne des formes, il se donne des images, des fétiches, etc. Et l'historien de l'art, donc, est un historien de fait. Et... Je m'intéressais beaucoup à l'histoire de l'art, comme tout un chacun, comme beaucoup de gens parmi vous ici, vous avez bien raison, parce que finalement c'est magnifique, chose splendide, mais l'art contemporain me posait un problème. Et je cite souvent une phrase de Roland Barthes, le sociologue, donc l'auteur donc des mythologies, il disait « Je suis à l'écoute de ce dont je suis exclu ». Vous voyez ça ? Il dit « En fait, ce dont je suis exclu vraiment m'interpelle, comme on disait à une époque ». Et l'art contemporain produisait sur moi ce questionnement, c'est-à-dire pourquoi au fond, je sais pas, je regardais une toile de Monet, 19e siècle, je pouvais comprendre, même encore Picasso, je pouvais comprendre, mais je sais pas, si j'arrivais devant des œuvres de Lawrence Wiener, des artistes conceptuels américains des années 60, franchement, je comprenais plus rien. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a beaucoup de gens qui s'enthousiasment pour ces formes-là, pour ce qui est dit, et ça doit bien vouloir quand même signifier quelque chose. Ce n'est pas uniquement de l'esbrouf ou de l'escroquerie, puisque bon, en partie, sans doute, un peu, mais voilà. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, avec l'aide de certaines personnes qui m'ont guidé, parce que je n'y suis pas allé tout seul, m'ont emmené voir des expositions, j'ai commencé à travailler. Et ça m'a permis de rencontrer Catherine Millet, donc, qui dirige la revue Art Press, dont on célèbre les 50 ans. On a célébré les 50 ans de cette revue en décembre dernier. Lundi prochain, au Centre Pompidou, à 19h, il y a il y a une soirée consacrée aux 50 ans à Paris. Et donc, Catherine Millet m'a demandé d'écrire un article, co-signé d'ailleurs avec un grand commissaire d'exposition qui s'appelle Ami Barak, qui m'avait un peu intronisé dans ce milieu-là. Et c'est comme ça que ça a commencé, si vous voulez. Ça a commencé par une pratique, qui est une pratique de regard, de dire, allez voir cette exposition ou cette œuvre, écrivez peut-être quelque chose dessus, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis, bon, voilà, de fil en aiguille, ça vous entretient dans une actualité. L'actualité nourrit la méconnaissance historique que vous avez du moment dans lequel vous vivez. Vous l'enrichissez progressivement. Et au bout d'un moment, vous avez envie d'en faire un livre ou une thèse, hein, ce que j'ai fait. Donc j'ai fait une thèse sur la création plastique contemporaine avec Laurence Bertrand d'Orléac, qui est une grande historienne de l'art. Actuellement, elle a cette exposition au Louvre qui s'appelle Les Choses, hein, qui dure, je crois, jusqu'au 21 janvier. Et donc, dans le même temps, de cette thèse, j'ai tiré un livre, hein, qui s'appelle Art, l'âge contemporain, qui a eu, là, de fait, beaucoup de succès parce que c'était une première. Il y avait un seul livre sur l'art contemporain, c'est celui de Catherine Millet, l'art contemporain en France, et celui de Jean-Luc Chalumeau de même. Mais il n'y en avait pas sur l'ensemble de l'art contemporain, son histoire mondiale, si vous voulez. Et à ma grande surprise, ce livre a très bien marché. Et de fait, ça m'a permis, ayant été édité, déjà de pouvoir continuer à l'être, vous voyez. Et après, vous avez le pied à l'étrier, quoi. Donc, il faut travailler. Non, mais ça, c'est important, c'est une donnée importante. Ça a l'air facile comme ça, mais il faut quand même beaucoup travailler. Il faut être très attentif aux artistes, notamment aux œuvres, et il faut avoir beaucoup d'humilité. Hein, ça, c'est ce que je défends tout le temps. Et ne jamais parler de soi, le moins possible. Bon, ce n'est pas facile, quand vous faites une analyse, de ne pas parler de vous-même, mais pour revenir à Pierre Bourdieu, comme il disait très justement, il faut essayer d'objectiver sa subjectivité. Vous voyez, hein, cette formule, parce qu'on parle toujours de nous-mêmes, d'une manière ou d'une autre, mais il faut essayer d'oublier un peu qui on est et de se consacrer vraiment aux œuvres qu'on regarde. Et ma foi, j'ai essayé de faire comme ça, c'est-à-dire de m'oublier, d'oublier qui j'étais pour me consacrer aux œuvres, aux artistes. Et ma foi, j'en ai été très enrichi. Réellement.
Alors, il y a quelque chose, vous avez parlé de cette odeur qui vous a fait fuir, cette odeur des archives qui vous a fait fuir. Et à la fois, chaque fois que j'ai abordé un livre, il me semble qu'il y a un rapport au corps très important. Et je ne suis pas surprise que l'image corps ait fondé pour nous quelque chose qui soit aussi un espèce de bréviaire de comment l'art contemporain s'empare du corps. Et je trouve qu'il y avait cette idée assez intéressante, c'est que vous questionnez la représentation au profit peut-être du vivant. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse à cet égard chez vous, c'est comment la moto, elle vient là, et comment est-ce que le vivant aussi, mais les odeurs telles que vous l'énoncez, mais aussi, on le verra dans certains romans, enfin dans tous les romans d'ailleurs, le corps a une place immense.
Oui, immense, c'est vrai. Sans doute parce que moi, je viens d'une époque, quand j'étais très jeune, bon, j'ai 66 ans, hein, donc voilà, c'est un âge déjà canonique, hein, clairement. Non, mais réellement canonique, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu une conscience, l'esprit de mes 68 était mort, vous voyez, donc de la libération, voilà, ça commençait à devenir plus compliqué. On était des postes 68-ards, ma génération, c'est-à-dire des gens qui ne pouvaient pas dire, oui, il faut jouir sans entrave, etc. Vous voyez, aller vers le sentiment que la liberté est possible. Bon, on avait le sentiment que c'était plus compliqué. Et en plus, les post-68ards ont dû encaisser quelque chose de terrible, surtout pour les historiens, mais pour tout le monde. Ça a été la désintégration de l'Union soviétique. Hein, c'est l'effondrement donc, du bloc de l'Est, hein, en 1991. Le 31 décembre 1991, l'URSS disparaît. Et c'est quelque chose d'absolument incroyable. Parce que toute, moi, ma conscience de post-68ard s'était construite sur l'idée d'un monde bipolaire, vous voyez, d'une opposition très claire entre, d'un côté, le capitalisme, de l'autre côté, le socialisme, bon, une sorte de lutte comme ça. Et tout d'un coup, on se rend compte que plus rien de tout ça n'existe, vous voyez. Et ça crée le sentiment qu'on appelle post-moderne du monde. Je ne veux pas employer de trop grands termes, mais ça veut dire quoi? Le sentiment moderne du monde, il est simple. C'est de dire, on va de l'avant. On brise tout ce qui est de l'ordre de la tradition. La technique nous aidera, la technique nous sauvera. Vous voyez, bon, le sentiment classique du monde, il est facile aussi, c'est de dire, je ne veux pas de l'innovation, je veux revenir à des équilibres traditionnels, bon, des grands systèmes de références religieuses, notamment. C'est facile. Mais quand vous êtes un post-moderne, justement, entre guillemets, vous n'avez ni la possibilité de cette foi dans le modernisme, ni la possibilité de cette foi dans le traditionnalisme, par exemple, que je ne critique ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Mais vous vous retrouvez dépossédé. Et la seule chose qui vous reste, et ça, c'est la caractéristique vraiment de l'humain post-moderne, c'est votre corps, c'est votre histoire personnelle, mais sans savoir, finalement, vraiment à quoi la raccrocher. Vous êtes désidentifié, d'une certaine façon. C'est-à-dire, vous n'avez plus d'identité. Et c'est en ce sens-là que, c'est vrai, je vous donne absolument crédit de ce que vous dites, quand, effectivement, je vois bien qu'on ne voit pas quand on fait un travail à 25 ans, à 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans. On ne voit pas ce que c'est, on ne voit pas la somme. Mais à mon âge, maintenant, on la voit, la somme. C'est-à-dire qu'au fond, on est révélé par ce qu'on a fait, mais on est révélé après coup. Vous voyez, il fallait l'avoir fait pour être révélé. Et en effet, cette question du corps traverse totalement je peux dire mon œuvre, comme si j'étais Chateaubriand. Enfin, faut être sérieux, quoi. Bon, traverse, disons, mes travaux littéraires ou mes travaux d'histoire de l'art ou d'histoire de la culture ou de l'architecture aussi. C'est-à-dire, il y a toujours cette question qui est centrale. Comment positionner son propre corps dans un monde où il n'y a plus de repères, si vous voulez, tangibles? Alors, attention, certains ont des repères. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de repères pour tout le monde. Je parle uniquement pour moi. Moi, je ne parle pas des autres. Vous savez, je crois que chacun vit sa vie. Ce n'est pas si facile. C'est très difficile de vivre une vie. On a tous, évidemment, des problèmes, des accidents, des douleurs, des chagrins, etc., des frustrations, des échecs, bien évidemment. Mais... parlant pour moi, je parle de cette difficulté tout le temps de positionner son propre corps. Et ce que j'aime dans l'art, justement, c'est que je vois que bien souvent, les artistes contemporains, les gens au travail aujourd'hui, sont essentiellement des gens qui cherchent une position, non pas une posture, une position. C'est-à-dire, et on voit bien que ce qui leur donne cette position, c'est leur travail artistique, c'est cette réalisation. L'art constitue une forme d'accomplissement. Alors évidemment, c'est un accomplissement pauvre au fond, parce qu'il est pour soi-même. Si les gens aiment ce que font les artistes, très bien pour eux, ils en sont gratifiés. Mais dans les faits, ça ne change pas souvent la face du monde. Mais ça permet de vivre, vous voyez, quand on est dans un monde où on a perdu les attaches. Donc le corps, oui, bien sûr. C'est tout ce qui nous reste, hein, quand tout le reste a disparu.
Vous m'avez dit que ce livre, Extrême, esthétique de la limite dépassée, avait été d'une... très grande difficulté à écrire. Effectivement, là, vous vous frottez à des expériences de corps, mais qui sont très proches de la mort, de la destruction.
Oui, la violence. Alors, il faut préciser, plusieurs livres sur le corps, bon, j'ai écrit les représentations du corps, la manière dont on le représente en esthétique, dont ce livre s'appelle L'image corps, bon, qui est publié il y a un peu plus de 20 ans, qui est toujours vendu d'ailleurs, qui s'appelle Figure de l'humain dans l'art du XXe siècle, c'est-à-dire comment les modernes représentent le corps humain. Voilà. Donc ça va de la belle représentation néoclassique, il y en a encore au XXe siècle, jusqu'au corps bricolé des cubistes, jusqu'au corps, si vous passez un siècle, ce qu'on appelle le corps post-humain, des artistes qui travaillent sur le biocorps, les prothèses, etc. Enfin, vous voyez la technologisation du corps, etc. C'est une sorte de panorama comme ça de cet ensemble. Comment on représente le corps, voilà, les artistes. Qu'est-ce qu'ils font de nos corps? Quelle image lui donne-t-il? Et puis, autre chose, c'est-à-dire les limites, la question des limites. C'est-à-dire, voilà, le corps, c'est bien de le représenter, mais ce corps, nous le vivons parfois avec une très grande violence où nous voulons lui faire endurer des choses très, très dures. Et comment ces choses très dures les représentons? Alors, quelles sont ces choses très dures? Ben, c'est la violence, par exemple, violence physique. La violence morale, la pornographie, par exemple, la question de la mort, vous voyez, toutes ces choses-là, l'extrême, tout ce qui est extrême. Et on note quand même qu'on vit dans une société, en tout cas, moi, celle dans laquelle j'ai vécu, un peu moins maintenant, qui est fascinée par l'extrémisation du corps, c'est-à-dire emmener le corps toujours plus loin, pousser les expériences physiques jusqu'à l'insoutenable qu'on s'impose à soi-même, les performances violentes, les performeurs qui s'automutilent, etc., vous voyez, ou qu'on impose à d'autres, hein, les snuff movies, toute la violence, etc., ou qu'on impose même à l'image de l'humain, bon, Gunther Van Hagens, par exemple, donc naturaliste plastineur qui expose des cadavres, de vrais cadavres dans des expositions, en les faisant jouer au basket, enfin, vous voyez, bon, enfin, des choses quand même qui outrepasse quand même la décence, la pudeur dont on a besoin pour vivre. Parce que, excusez-moi, mais on ne vit pas dans l'extrême. On ne vit l'extrême que de temps en temps, une sorte de pointe paroxystique de la vie. Tout d'un coup, c'est la fulgurance du désir, on pourrait dire. C'est quelque chose qui monte, on ne peut pas l'arrêter, mais quand ça s'arrête, on se dit, mon Dieu, Dieu merci, parce que si ça continuait comme ça, c'est la mort. Quoi. On se détruit, forcément. Et donc, j'avais ce désir d'écrire un livre là-dessus aussi, c'est-à-dire comment on peut esthétiser l'extrême, quelles représentations, quelles images on donne de ça. Et donc, en effet, j'ai écrit ce livre, avec l'aide d'ailleurs d'une éditrice qui est Sylvie Fenzac, que je remercie, chez Flammarion, aux éditions Flammarion, parce qu'il fallait beaucoup de courage pour imposer ce livre à un éditeur, et surtout pour l'imposer avec des illustrations. Ce qui a été fait. Bon, le livre ayant, pour finir, été vendu sous blister, bien évidemment, comme celui sur l'image corps, puisqu'il y a des images à l'intérieur qui peuvent choquer, à juste titre d'ailleurs, hein, les jeunes regards, et c'est comme ça. Mais dès qu'un livre est vendu sous blister, alors il intéresse les voyeurs de tous âges, qui déchirent, mais ils regardent, mais ils n'achètent pas. Hein. Donc vous voyez, c'est. Voilà. Hein. Mais dès qu'un livre est sous blister, généralement, il se vend beaucoup moins qu'un livre qui ne l'est pas. Et donc j'ai beaucoup souffert, en effet, parce que. Pour écrire, au fond, ce qu'est cette violence qu'on s'impose à nous-mêmes, qu'on s'inflige à nous-mêmes, pas toujours, pas tous, pas sans arrêt, et les images qu'on se donne de cette violence, comme pour en garder la mémoire, hein, d'une certaine façon, eh bien, j'ai dû voir beaucoup de choses très, très dures, et d'une certaine manière, ça m'a absolument calmé de la violence. Je ne supporte plus les images violentes. J'en ai été guéri. Vous voyez.
Alors,
c'est le bon côté de la chose, je dirais. J'en ai été guéri. Voilà.
Belly le ventre, ouais. Roger pris dans la terre, ouais. L'ami du bien. Donc, trois romans plutôt récents. Ces romans-là, c'est des métaphores. Enfin, moi, je préfère le mot fable. Mais en fait, on retrouve quelque chose comme ça, ouais. Comme d'une extrémité du corps. Belly le ventre, c'est un ventre ogre. C'est ouais. Quelque chose qui met le corps dans ses limites. Roger pris dans la terre, lui, il devient terre, il devient poussière.
Oui, c'est un paysan qui devient de la terre, oui, c'est ça. Enfin, il a.
Et il devient une terre salie. Ouais. Il devient une terre chimique.
Ouais. C'est ça. Ouais.
Et il se révolte là-dessus. Donc, est-ce que ces romans ont été nourris sans doute par vos observations de l'art contemporain, mais en même temps, ils sont aussi œuvres à part entière, ils sont créations, ils sont...
Oui.
Non.
Si, si, alors...
Invention.
Bon, on peut être... vous savez, on vit dans une société où on spécialise les créateurs. Si, par exemple, vous êtes réputé comme, je ne sais pas, artiste, plasticien, peintre, vous serez toujours peintre. C'est-à-dire, si à un moment donné, vous devenez écrivain, par exemple, ça n'intéressera personne, hein, c'est comme ça. Bon, moi, je n'ai jamais fonctionné de cette manière-là. Fondamentalement, au départ, c'est l'écriture de création qui m'intéressait. Donc, j'ai écrit très tôt. Je
oui, vous avez écrit sous contrainte, beaucoup, par exemple, pour essayer.
Énormément, mais ça... Bon, j'ai écrit, j'ai fait des textes, j'en ai plein les tiroirs. Hein, voilà. C'était impubliable, je vivais au fin fond de la Charente. Je ne vois pas comment vous pouvez publier ça, vous envoyez ça par le courrier, ou faites une livraison à Paris, vous faites de la moto, vous faites passer pour un coursier en disant bah, tellement vous avez honte de ce que vous avez écrit. Enfin, voilà, on en est là, donc ça ne marche pas. Sauf une fois, ça a marché chez Grasset, ça a marché, ils m'ont demandé de réécrire juste
Nouvel
la
âge
fin.
Ou sans visage,
non, un livre qui a été publié après, dix années plus tard. Bref, tout ça, ça veut dire que moi, j'ai commencé par le récit de fiction. Pourquoi le récit de fiction? Parce que, si vous voulez, ayant étudié la philosophie, beaucoup, comme beaucoup de gens d'ailleurs qui étudient le mouvement des idées, je me suis rendu compte qu'on était très rapidement victime d'une certaine systématisation de la pensée, c'est-à-dire d'un certain dogmatisme, voilà, qui faisait qu'on ne pouvait pas tout intégrer. Or, l'avantage du roman, si vous voulez, c'est qu'il permet de tout intégrer. Vous pouvez absolument intégrer absolument ce que vous voulez. Vous pouvez mettre les idées de Kant, de Karl Marx. Vous pouvez aussi mettre la cuisine de Paul Bocuse, tout ce que vous voulez, la passementerie, le point d'esprit du puits envelé, vous voyez, en broderie. Enfin, vous pouvez tout faire rentrer, vous pouvez constituer des mondes. Et ça m'intéressait beaucoup plus que la pensée dogmatique qui était celle, moi, de ma jeunesse, la pensée de philosophes comme Marx, Martin Heidegger, par exemple. Hein, c'était comme ça. Alors, il y avait, certes, il y avait Michel Foucault et Jacques Derrida. Il y avait des penseurs comme Gilles Deleuze qui ont beaucoup compté pour moi. Mais pour le reste, je trouvais que le champ philosophique était trop corseté. Et le roman avait cet avantage de pouvoir absolument tout intégrer. Et en fait, je dirais que moi, je ne me suis pas spécialisé dans un domaine ou dans un autre. J'ai simplement continué, d'une part, à faire un travail de création, devant lequel je recule tout le temps, d'ailleurs, parce que c'est très effrayant, créer est très effrayant, et un travail de commentaire, voilà, qui est mon travail d'historien de l'art ou d'esthéticien. Je fais les deux indifféremment. Vous voyez, j'ai pas de... Voilà,
dans les mêmes lieux, au même moment.
Ce qui fait... Bon, d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on échoue. On échoue... aujourd'hui, pour que quelqu'un réussisse, par exemple, dans le monde littéraire, où il y a une concurrence extraordinaire, parce que tout le monde écrit aujourd'hui. Tout le monde écrit, hein. Il y a des romans, quasiment tout le monde. Je suis sûr que la moitié des gens ici ont écrit des romans ou ont pensé à en écrire, peut-être plus. Donc, il y a une concurrence. Et c'est très bien, hein, c'est très légitime, mais ça rend très difficile d'exister dans ce milieu-là, de durer. Vous voyez, donc, bon, beaucoup de gens se spécialisent. Vous voyez. Moi, c'est pas mon cas. Voilà. Donc, oui, effectivement, les romans, les essais, le corps, partout, que ce soit dans les textes de fiction ou dans les textes donc littéraires. J'ajoute, par exemple, sur ce livre, Bélie le ventre, oh, qui n'a pas dû avoir un grand succès de librairie, mais enfin, bon, il existe, il est joli, je trouve que c'est un beau livre, il y a du contenu. Je pense que ce que je dis toujours à mon éditeur, c'est que la qualité du papier est bien pour faire des briquettes. Vous voyez, l'hiver, avec la crise de l'énergie, vous pouvez voilà, mettez ça dans votre insert, dans votre four.
Vous vous mésestimez.
Mais par exemple, c'est un livre, j'en aurais fini très vite, mais c'est un livre politique sur le ventre. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de métaphore, le corps humain. Bon, vous voyez le corps comme une société. Le corps, c'est une société. Et donc, dans cette société, ben, vous avez la tête, ceux qui pensent. Vous avez les bras, ceux qui travaillent. Vous avez ben, le ventre, ceux qui digèrent, etc. Les yeux. Donc, j'ai inventé une sorte de société imaginaire dans laquelle vous avez des ventres, vous avez des yeux, vous avez des cerveaux, vous avez des cœurs. Vous voyez, bon, vous avez les muscles. Et chacun se déchire pour avoir le pouvoir. Vous voyez, comme ça. Et donc, j'ai pris, je me suis mis à la place de quelqu'un qui a une position quand même importante, qui est d'être un ventre. Parce que le ventre, c'est celui qui nourrit la machine. Vous voyez, il s'appelle Bélie le ventre, Bélie le ventre en anglais, Bélie le ventre. Donc, c'est une histoire, voilà, on fait politique. C'est-à-dire, comment constituer une société d'équilibre où, finalement, tous ceux qui concourent au fonctionnement de la machine, eh bien, cherchent à contrôler la machine. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, c'est un type de... Ça nous parle de nos corps, hein, puisque, voilà... Moi, je voudrais être intelligent, mais je préfère la bouffe, vous voyez. Donc, j'aimerais être un cerveau, mais en réalité, je mange trop et je grossis. Enfin, vous voyez, c'est terrible. Je voudrais être un muscle, un mec super musculeux et tout, mais j'ai une machine à muscler chez moi, je ne vous le dis pas, mais je n'arrive pas à m'en servir, vous voyez, c'est horrible. Il faudrait... Bon, je suis un ventre.
Une peinture sur la manchette d'un livre, Magritte. Oui. Motif de la peinture, un peintre devant son chevalet. Un modèle installé sur une table sur sa gauche, il peint à main droite. La peinture est déjà bien avancée. Le modèle est un œuf et le motif est un oiseau. Cette peinture de Magritte est sur la manchette de votre livre « Comment je suis oiseau » et qui a été, c'est un roman de 2014. Livre étrange, vous questionnez votre enfance avec ses rêves, ses fantasmes, je ne sais pas trop comment le dire parce que vous y êtes vraiment. Ce futur où vous voyez... Vous voyez oiseau, vous attendez les plumes à la place des poils et vous attendez les quatre griffes à la place des doigts. À l'heure de la perte de la biodiversité et des questionnements du devenir animal, comment ce devenir oiseau vous est-il arrivé? C'est-à-dire qu'il me semble que là, le roman aurait peut-être précédé Art et écologie.
Oui, moi j'ai grandi à la campagne. Bon, je pense beaucoup d'entre vous... aussi peut-être, ou reste très proche ici en Bretagne du monde rural, bon, qui n'est plus la vraie campagne, parce que tout est artificialisé, bon, on le sait bien, et là, vous le savez mieux que quiconque, avec tous vos problèmes de pollution, bon, etc., liés à la surexploitation, bon, etc., porcine et autres. Bon. Mais quand on vit, grandir à la campagne, c'est acquérir un corps assez particulier, avec une certaine porosité aux choses de l'environnement. À l'air d'abord, hein, évidemment, à l'eau, à la terre. Quand on est dans le monde agricole, la terre, c'est quelque chose de très important, incontestablement. Je ne dis pas qu'il faut sacraliser la terre. La terre, elle ne ment pas. Bon, à la manière vichyste, vous voyez, de Pétain, ce n'est pas ça du tout. Mais c'est quelque chose, c'est là, sous vos pieds. C'est, je sais pas, vous allez travailler la terre. C'est quelque chose de très fort. Donc, tout ce qui est naturel, au fond, ou qui reste, tout ce qui reste de la nature, au fond, finit par constituer un élément de votre corps. Et le monde animal aussi, dans ce cadre-là, et les oiseaux, en ce qui me concerne, moi, m'ont beaucoup fasciné. J'ai aucun mal à comprendre, à ressentir ce qu'est l'animisme. Vous voyez ce qu'on appelle l'animisme, c'est-à-dire le fait de donner une âme aux choses de la nature. J'ai aucun mal à comprendre ça tellement, quand on vit, quand on grandit dans des milieux ruraux, naturels, ben voilà, tout ça est normal. Enfin, voilà, même les odeurs ont un esprit, vous voyez, c'est comme ça, tout a un esprit. Alors, il se trouve que quand, et c'est une histoire vraie, ce roman est fondé sur une histoire vraie, quand j'avais un peu moins de 10 ans, j'ai eu le désir d'être ornithologue. Mais très sérieusement, c'est une chose très sérieuse. Le premier livre que j'ai écrit est un livre d'ornithologie, d'ailleurs, que je n'ai pas fini, mais je l'ai commencé. Je suis toujours conservé avec des dessins, voilà, qui s'appelait donc « Oiseaux de nos contrées ». Hein, ça s'appelait comme ça. Je l'avais signé avec mon
nom. Vous le racontez dans le livre.
Non, mais réellement, enfin, voilà, j'avais une fascination des oiseaux. Un grand amour des animaux aussi. J'étais jeune ami des animaux. On appelait ça à l'époque les JAA. Voilà, j'étais très fier parce qu'on avait une broche avec une belle tête de chien comme ça, en argent, enfin en faux argent. Hein. Mais non, mais voilà, c'était comme ça. Sachant que le monde rural est un monde très dur pour les animaux. Hein, je vous préviens. Hein. Les vaches comme ça, mes parents faisaient de l'élevage. Je peux vous dire que les pintades, les dindons, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est brutal tout ça. Hein, c'est violent. Hein. Bien évidemment. Donc, oiseau, l'ornithologie comme science, et puis le désir d'incarner l'oiseau en moi-même avec cette découverte quand même qui est fondée sur une déception, c'est le fait que je ne serai pas un oiseau. Comment je suis oiseau? Et j'essaie de raconter dans ce livre comment, ben, finalement, j'avais l'impression d'être un oiseau tout en n'en étant pas un. Et voilà, et c'est toute cette histoire à la fois fantasmatique et très organique aussi. C'est pas seulement un fantasme, c'est aussi le fait de ressentir, voilà, l'oiseau, y compris d'ailleurs sa bêtise. Vous savez, les oiseaux sont, on dit tête d'oiseau, hein, c'est des animaux très bêtes en général, hein, très très mécaniques. Voilà, incarner tout ça, c'est important. Ça renvoie encore une fois à la question du corps. Et c'est quelque chose, effectivement, je crois, qui traverse beaucoup d'entre nous, en tout cas les gens de ma génération. C'est le sentiment de ne pas savoir exactement quel type de corps l'on a, mais d'avoir la certitude qu'on n'a pas exactement celui qu'on aurait voulu. Voilà. Alors, cela étant, ça appartient peut-être à toute époque. Mais il y a des civilisations qui échappent à ça. Si vous lisez, par exemple, Philippe Descola, notre grand anthropologue, professeur au Collège de France, respect sacral, c'est quelqu'un qui a travaillé en Amazonie avec les Achuar, par exemple, qui est un peuple amazonien. Mais l'Achuar est quelqu'un qui n'a pas à se poser ce genre de questions. Parce que, par exemple, si moi je suis un Achuar et vous aussi je vous vois, je vous dis, ah, vous êtes une femme, mais tout à l'heure je vous ai vu passer, j'ai vu un jaguar passer, mais pourquoi vous êtes transformé en jaguar tout à l'heure, etc. Vous voyez, ah, là je vois un beau perroquet qui passe, ah ben tiens, ça c'est l'oncle machin qui passe, il vient nous dire bonjour. Vous voyez, quand vous vivez dans des sociétés qu'on considère premières, archaïques, bon, peu importe comment on les appelle, je ne produis aucun jugement de valeur hein, sur ce que sont ces sociétés-là, mais en tout cas, la question du corps qui est le vôtre ne se pose pas parce que vous pouvez avoir tous les corps. Vous pouvez adhérer à n'importe quelle corporéité, vous pouvez intégrer n'importe quelle corporéité parce que votre système de croyance vous le permet.
Ou mais vous nous, dialoguez les avec les autres, avec les animaux et les plantes.
Et bien évidemment. Mais nous, évidemment, dans notre culture occidentale, dont moi je suis un pur produit, j'avoue, que comment faire? Qu'est-ce que j'y fasse? Je suis né là, je suis conditionné par le monde dans lequel je vis. De fait, ne permet pas ça. Donc, on est condamné à l'horizon fantasmatique, si vous voulez. Si. Voilà, comment je suis oiseau, ben, comment est-ce que je peux être un oiseau? Donc, j'ai plus qu'à inventer que je suis un oiseau, à m'habiller en oiseau, comme je le fais, avec des plumes, comme ça, me regarder, m'inventer un bec, enfin, vous voyez, des choses comme ça.
Art et écologie.
Ah, c'est vaste.
Comment c'est arrivé? Comment est-ce que vous avez eu? Parce qu'à un moment donné, nous, je pense que les artistes cherchaient, mais on ne savait pas trop où trouver. Tout d'un coup, ce livre apparaît. Enfin, pour ma part, ça a été une apparition. C'est-à-dire, je me dis, qui aurait fait une somme sur une réflexion sur l'art et la nature? Et ce livre existait. 2018.
Alors, oui. Alors, il faut être franc, il y a des livres qui avaient existé déjà, mais qui étaient des recueils de fiches. Il y a un livre anglais, notamment, chez Sams & Hudson, qui était paru 2 ans auparavant. Mais à ma grande surprise, il n'y avait rien, y compris aux États-Unis, dans le domaine états-unien. C'était assez surprenant, d'autant que, j'en parlerai demain soir au Centre d'Art Passerelle, l'art dit écologique, enfin, où les artistes plasticiens ou créateurs de formes visuelles qui travaillent sur la question de l'environnement, de l'écologie, de la défense de la biodiversité, hein, de la lutte contre le gaspillage, etc. Dans le cadre d'améliorer la transition climatique, autant que faire se peut, au moins esthétiquement, ces artistes sont au travail depuis les années 1960, hein, déjà. Donc, ce livre est venu très tard, quand même, dans une histoire qui a longtemps patiné. J'essaierai d'expliquer demain pourquoi. Donc, ce livre, oui, mais était quelque chose de normal pour moi. Je vais essayer très vite d'expliquer pourquoi. D'abord, du fait de mes origines. Moi, c'est vrai que j'appartiens à une génération qui a vu dans le milieu rural la chimisation de l'agriculture, hein, on pourrait dire l'industrialisation de l'agriculture, comme je le racontais à des collègues tout à l'heure, le passage des 30 quintaux hectares de blé en 1945, hein, c'était mon grand-père, aux 100 quintaux hectares de blé en 1975. Vous voyez, c'est la génération, la mienne, moi, quand je suis juste sorti de l'enfance. Donc, vous voyez un peu la progression exponentielle de la productivité agricole, mais acquise, bien sûr, au prix d'engrais, de pesticides, de tout ce que vous pouvez, d'une chimisation extraordinaire. Et ça m'a énormément marqué, je peux vous le dire, d'autant que, bon, étant engagé quand j'étais jeune, plutôt à gauche, même à l'extrême gauche, on fait des erreurs, hein, dans la jeunesse, hein, ça peut arriver, hein, peu importe, mais j'étais déjà attaché au mouvement écologique. Je me souviens être allé à Crémalville, à Naussac, enfin bon, au Larzac aussi. Je suis à 2 reprises au Larzac, hein, voir les paysans là, sur leurs tracteurs, etc. Bon, très, très jeune encore, hein, mais c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Donc, j'ai toujours gardé un lien avec l'écologie politique. Mais dans les formes d'art qui m'ont intéressé, j'ai aussi toujours évoqué, vous l'avez dit, la question du corps, mais comme un objet qui est un objet organique, mais aussi un objet social et politique, en m'intéressant beaucoup aux artistes qui travaillent sur la question politique, notamment les artistes qui travaillent dans la rue. Le livre sur l'art contextuel, dans des contextes réels, les artistes qui travaillent de manière participative, les artistes du soin, parce que vous avez beaucoup d'artistes aujourd'hui qui travaillent dans une perspective empathique. Vous voyez, l'empathie, faire des œuvres qui soient des œuvres utiles pour faire du bien aux gens, etc. Ça n'a plus rien à voir avec juste quelqu'un qui dessine, vous voyez, ou qui peint. Ça va beaucoup plus loin. Et donc, l'écologie s'inscrivait logiquement dans cette espèce de politique des corps, hein, si vous voulez, que je retrouvais dans l'art, que je retrouvais dans les textes de fiction que j'essaie d'écrire et que je retrouvais dans ma propre histoire personnelle. Voilà. Donc, y a un lien assez naturel qui faisait que ce livre manquait au livre que j'avais le désir d'écrire. Vous savez, quand on écrit, on a parfois envie d'écrire des livres. Alors, on parvient ou pas à les écrire. On n'y arrive ou pas, parce que derrière tout ça, il faut quand même le dire, il y a de la besogne, quoi. Il faut travailler, hein. C'est pas compliqué, ça s'écrit pas tout seul. Bon, moi, j'aimerais bien avoir des nègres, je sais pas où, vous voyez, de l'argent. Je leur dis, bon, tu m'écris ça, non, c'est mal écrit, réécris-le. Etc. Malheureusement, je suis pas assez riche, vous voyez, pour faire ça. Voilà, donc c'est quand même du travail, c'est du boulot, mais c'est une sorte d'investissement qui ne doit jamais quitter le réel, hein, tout ce qui constitue ce
réel. Oui, ça veut dire que le travail, il est à la fois d'aller voir, de vous déplacer, d'aller voir, de rencontrer les artistes et à la fois de commenter. Et oui, ensuite de trier, d'analyser, de ranger.
C'est ça, et puis en sachant jamais quel livre, et c'est là où je voulais en venir dans la réponse précédente, quel livre vous allez écrire. Parce qu'en fait, vous avez le désir d'écrire tel ou tel livre, mais, ou sur tel ou tel artiste, mais vous allez le faire ou pas, vous, ça va marcher ou pas, vous allez y arriver ou pas, enfin, c'est compliqué. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'attention pour un sujet que vous arrivez à le cerner. Et de ce point de vue-là, je voudrais dire une chose qui pour moi, est extrêmement importante, c'est que parfois, on a besoin des autres, parfois. Vous voyez, c'est drôle, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Voilà, mais bon, beaucoup de gens n'ont pas besoin. Mais moi, j'ai toujours eu besoin des autres. Mais bon, les gens qui m'ont rendu peut-être le plus de service, enfin, dans ma vie professionnelle, ce sont les éditeurs. Moi, j'ai un respect sacral des éditeurs. Parce qu'un auteur sans éditeur, c'est absolument rien. Hein. C'est peut-être comme un artiste qui ne peut pas exposer. Vous voyez, un artiste plasticien, il ne peut pas exposer. Ce n'est pas que c'est rien. Il a fait le travail, mais il ne peut pas le médiatiser. Vous voyez, donc, il y a quand même quelque chose qui fait dire l'œuvre n'est pas terminée. C'est quand même une incroyable frustration. Pour un auteur, c'est pareil. Écrire un livre et que ce livre ne soit pas publié, c'est un problème. Et beaucoup d'éditeurs m'ont proposé des livres que moi, je n'aurais jamais écrit sans ça. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, bon, le livre, l'image corps, c'est un éditeur, les éditions du Regard, hein, monsieur tout à fait remarquable, ça s'appelle José Alvarez, qui a créé cette maison d'édition. Donc, José Alvarez m'a dit un jour, je sens que tu devrais écrire un truc là-dessus, je pense que tu pourrais faire ça, etc. Il m'a convaincu de le faire, vous voyez, mais jamais je l'aurais fait. Et quand je me souviens, quand je suis sorti des éditions du Regard rue du Delta à Paris, là près de Barbès-Rochechouart, j'ai signé pour ça, j'ai dit, mais je suis complètement fou, c'est un travail, ça va me prendre des années. Effectivement, ça m'a pris des années. Mais ça s'est fait, vous voyez. Et là, j'ai publié un livre auquel je tiens beaucoup, sur la joie, l'art et la joie. Ça s'appelle L'art en joie, qui est en publication, il sortira, je pense, ou au mois de juin ou au mois de septembre. C'est sur les représentations de l'humanité joyeuse. Bon, vous voyez, c'est curieux, ça n'existait pas. Sur l'humanité souffrante, alors là, vous en avez des tonnes. Hein, je peux vous dire, surtout dans le monde occidental, judéo-chrétien, où quand même la souffrance, la culpabilité se porte bien.
Qui fait œuvre, qui fait voilà. Art, souvent.
Bon, eh bien, vous voyez, ce livre, jamais je l'aurais écrit par moi-même. C'est mon éditeur belge, un de mes éditeurs, qui m'a dit, moi, je rêve d'un livre sur les figures de la joie. Comment est-ce que les artistes représentent la joie depuis toujours, depuis le monde mésopotamien, depuis qu'il y a des images. Et il m'a dit, eh ben, tu vas écrire ce livre-là. Je l'ai fait, mais franchement, j'en ai bavé, hein, je peux vous dire. Mais je l'ai fait. Mais je ne l'aurais pas fait sans ça, vous voyez. Donc, voilà comment on travaille, vous voyez. On a des objectifs. On s'informe auprès du réel, on puise dans le réel, mais parfois, on vous pousse aussi à aller plus loin.
Oui, mais vous pouvez dire non. Donc, ça veut dire que c'est aussi une rencontre qui fait fortuite, enfin, qui vous aide
ouais,
à construire.
Mais moi, ce que je sens, c'est que ces éditeurs-là, on pourrait être très méchant, on pourrait dire qu'ils font écrire les livres qu'ils sont incapables d'écrire. Vous voyez, et puis là, vous avez un sourire un peu sardonique. De dire, bon, voilà. Non, on pourrait simplement dire... Il voit à quel point vous êtes idiot et vous n'avez même pas vu que vous pourriez écrire ce livre-là. Voyez. Et donc, il vous le suggère et finalement, vous dites, oui, vous aviez raison, il fallait le faire. Moi, je vois plutôt les choses comme ça.
Vous avez une confiance dans les artistes, il me semble, parce que vous allez les regarder et vous les écoutez, enfin, vous les recevez, en fait. Sur cette question de la planète qui s'auto-détruit... Ouais. Est-ce que les artistes sont à même de répondre? Et ma question est plutôt, est-ce que l'artiste n'est pas trop tout seul? Et est-ce que peut apporter l'artiste dans ce monde qui vient?
Bon, là, je trouve que c'est une vaste question.
Oui, c'est vrai.
Moi, je pense
et c'est la conclusion, en plus. Enfin, ouais. J'aurais deux, trois mots à vous dire, mais
non,
c'est vrai
non,
qu'on
mais
on va sur la conclusion.
C'est important. Bon, d'abord, je crois qu'il y a une erreur à jamais faire, c'est de croire que les artistes peuvent sauver le monde.
Ça, bon, certainement pas.
Mais ce n'est pas du tout leur mission. On a quelqu'un qui esthétise le monde, ce n'est pas pour le sauver. Bon, bien évidemment. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas être comptable à des gens qui sont des créateurs de sauver le monde. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la manière dont ils se saisissent des problèmes du monde, dont le problème, évidemment, écologique, qui est tout à fait réel, permet d'accélérer les prises de conscience. Ça, c'est essentiel. Vous voyez, bon... C'est ce qu'on appelle l'esprit concerned, hein, c'est ce que disent les anglo-saxons. Concerned, préoccupé. L'artiste exprime une préoccupation. Il lui donne une densité, il lui donne une image, il lui donne une visualité telle, parfois, qu'elle va aspirer le regard de beaucoup de gens, donc la conscience de beaucoup de gens. Et ça, c'est très bien. Vous voyez, on ne peut pas demander à Picasso, avec Guernica, tableau Guernica, d'arrêter la guerre d'Espagne. Vous voyez, ce n'est pas possible. Par contre... On continue à regarder ce tableau aujourd'hui à Madrid, au Reina Sofia, et on forme une idée, une représentation de ce qu'est la barbarie et de comment la barbarie est une mauvaise chose. Alors, ça n'empêche pas les barbares. On l'a bien vu dans cette année 2022. Hein, enfin, d'ailleurs, et toutes celles qui les ont précédées, sur une infinité de théâtres du monde où vous avez des cruautés innommables hein, qui sont... Évidemment révélé par l'action des hommes. Bon, je répète, l'artiste ne change pas le monde, mais il donne une image, une représentation de ce que peuvent être les souffrances du monde et nous, spectateurs, nous en faire plus conscience, prendre une conscience plus grande. Alors, il y a aussi un problème, il y a un vrai problème, et là, je n'attaque pas les artistes, évidemment, je n'attaque personne, c'est la question de la représentation qui, aujourd'hui, se pose. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'à venir dans une librairie comme ici pour voir le nombre de livres qui sont publiés. Il n'y a qu'à voir le nombre de musées qui est en France d'exposition pour constater que le nombre de créations visuelles est absolument hyperbolique. Il n'y a qu'à regarder les programmes de cinéma, de théâtre, pour constater qu'il y a une production considérable en termes de création. Et cette création finit par poser un problème. Et moi, c'est un problème que je ressens très fortement. C'est-à-dire, au fond, à quoi sert tout cela ? Est-ce que tout ça n'est pas un immense écran de fumée ? Est-ce que tout ça, finalement, n'est pas une sorte d'immense dispositif spéculaire, c'est-à-dire dans lequel l'humain se regarde ? Et au fond, il se regarde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il n'est pas, vous voyez ? Tel qu'il n'est pas, c'est-à-dire il n'est pas celui qui va empêcher la guerre, mais il est celui qui va lire un livre où il y a un héros qui empêche la guerre. Vous voyez ça ? Ça pose un considérable problème aujourd'hui. Vous voyez, l'idée que la fiction pourrait bien être une perversion, c'est-à-dire la fiction, toutes les formes qui fictionnent le monde, c'est-à-dire qui lui donnent une image, une esthétique, au lieu de pousser les gens à aller agir dans ce monde même. Vous voyez, et c'est quelque chose qui moi, me frappe. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans ma famille, j'ai énormément de représentants jeunes qui, au fond, ne veulent plus travailler, par exemple, dans des métiers conventionnels. Vous voyez, ils ne veulent plus être pâtissiers, ou je ne sais pas quoi, paysans. Par contre, ils travaillent dans le jeu vidéo, ils travaillent dans le cinéma, ils travaillent dans le théâtre, ils travaillent dans les arts. Etc. C'est-à-dire ils veulent tous être dans la créativité, très bien, la création, avec l'argument que créer, c'est s'accomplir, ce qui est tout à fait vrai, d'ailleurs, je ne peux pas dire le contraire, bien sûr. Mais au bout du compte, je me dis, mais si nous n'avons plus qu'une société de créateurs, qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est-à-dire, si on n'a plus que des gens qui produisent de la représentation, mais qu'est-ce que va devenir ce monde ? Vous voyez, c'est une question qui est instamment posée aujourd'hui, du fait d'un problème, moi, sur lequel je réfléchis actuellement, sur lequel j'écris, qui est la saturation. On est arrivé à un effet de saturation, et y compris dans le champ culturel. Il n'y a jamais eu autant de produits culturels qu'aujourd'hui. C'est hallucinant. Il y a des millions de livres qui sortent tous les ans, enfin de romans, tout ce que vous pouvez imaginer, des centaines de milliers de films, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette masse-là ? Est-ce que ce n'est pas, justement, l'extraordinaire symptôme révélant notre incapacité à nous saisir du monde tel qu'il est et à préférer la représentation au monde réel lui-même. Vous voyez, c'est le grand problème d'aujourd'hui, je crois. C'est le problème du 21e siècle. Et c'est une question qui est posée aux artistes aussi. Au fond, ce que vous faites, est-ce que vous avez raison de le faire ? Vous voyez ? Alors chacun répondra, hein, son âme et conscience. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas Dieu le Père. Je ne sais pas. Je sais pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Voilà. Mais c'est une donnée qu'il faut avoir en tête.
Je crois qu'on va conclure avec ça.
Si vous voulez, mais ce n'est pas juste déprimant, c'est juste, voilà.
C'est un champ de réflexion à ouvrir, en tout cas.
Il l'est. D'ailleurs, je lisais récemment, et je finirai par là, un article il y a quelques jours, vraiment intéressant, d'un théoricien qui disait, en fait, la fiction, l'art, à quoi ça sert ? Ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ça nous décrit, ça nous dépeint le monde, mais en réalité, on voit que le monde est de pire en pire, quoi. C'est pas parce que vous avez aujourd'hui des tas de romans qui vous parlent des migrants, des malheureux migrants qui traversent la Méditerranée, que ça empêche, hélas, des migrants d'essayer de traverser, de se noyer. Vous voyez, c'est pas parce que vous avez des tas de films qui vous parlent de militants écologistes au combat, etc. C'est formidable, engagés dans des luttes titanesques, que pour autant la pollution et la désintégration environnementale du monde s'arrêtent. Vous voyez, donc, on peut se dire, est-ce que tout ça, c'est pas une sorte de paravent, une sorte d'alibi ?
C'est pas de la vanité.
Voilà, de dire, ouais. Vous avez vu ce film, c'est formidable. Ouais, Tirailleurs, moi je suis allé voir Tirailleurs hier soir, ouais, c'est très intéressant, vous voyez, comme ça, mais vous dites, mais quand même, plus de 100 ans après la Première Guerre mondiale, il faut encore dire aux gens, bah oui, il y a des gens qu'on a pris en Afrique, on les a mis comme ça à Verdun ou hein, sur la Marne, et puis ils ont servi de chair à canon. Voilà, ça ne s'est pas arrêté, vous voyez, pour autant. Bon, on continue, on répète. Alors, peut-être que l'humain, c'est ça. C'est une sorte de. C'est un individu de la ratiocination, c'est-à-dire il faut qu'il ratiocine tout le temps. Et aujourd'hui, on voit que la ratiocination a peut-être pris le pas sur l'action. Oui, c'est ça. Alors, peut-être ce qu'il nous faut, c'est des activistes, vous voyez, plus que des artistes. je ne sais pas. Mais là, ça veut dire que je m'autodétruis. Hein. Là, je...
Rappelez que vous avez aussi un regard sur l'architecture et sur les lieux où nous vivons, ouais. sur les villes en particulier.
Bah oui, c'est le corps, hein. Où est-ce qu'on met son corps, hein, toujours. Hein.
Et notamment cet essai sur la mondialisation et l'architecture au titre de La Terre habitée. Votre dernier ouvrage, enfin celui que j'ai repéré sur Internet, Le Boost et le Frein, édité en 2020, donne quelques pistes sur l'architecture et l'environnement, peut-être dans un écho à ce livre, L'art et l'écologie.
Oui, c'est un peu la même chose. Moi, je me suis toujours intéressé, vous l'avez vu, au corps. Et donc, pour moi, l'architecture est une donnée très importante parce que, si vous voulez, elle nous concerne tous. Généralement, nous ne choisissons pas la forme des villes dans lesquelles on va habiter, la manière dont elles sont organisées, les bâtiments qu'on va devoir subir pendant des années. Voilà, cet environnement-là. Et donc... c'est pourtant l'environnement dans lequel on va mouvoir notre corps. Vous voyez, on va le placer, le positionner. Et il va falloir endurer ça. L'architecture est une discipline extrêmement autoritaire, j'ai envie de dire, hein, dans nos sociétés démocratiques. Hein. Elle est formidablement autoritaire. Vous en savez quelque chose ici à Brest, les villes reconstruites. Hein, on voit très bien. Hein. Bon, nous, on connaît bien ça, le Havre. J'habite près du Havre. Donc, voilà, vous devez subir en quelque sorte un choix de positionnement de votre propre corps dans un espace spécifiquement construit de telle manière et pas d'une autre, et il faut bien faire avec. Hein. Vous ne pouvez pas le modifier aussi facilement que le décor intérieur de votre salon. Oui, c'est comme ça. Donc l'architecture m'intéresse pour ça, beaucoup.
Et pour finir, vos vœux pour 2023, au public qui est ici.
Oh mon Dieu. Moi, j'ai un vœu privé. J'ai un vœu privé égoïste, hein. Bon, de guérison d'une personne qui m'est chère. Voilà. Et puis pour tous, bah, moi, un vœu de bonne santé, vous voyez, de sérénité. Voilà. Pour moi, c'est élémentaire. Si la santé va, je pense qu'on peut faire le reste. Vous voyez, on peut se débrouiller. Je crois que c'est tout. Soyez en la meilleure santé possible et ça sera parfait. Tout se fera, vous verrez.
Merci beaucoup, voilà. Paul Ardenne. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Ou si on passe à la dédicace maintenant.
Oh, dédicace.
Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions, mais en sachant que M. Ardenne s'étend dans les réponses.
Oui, je suis trop bavard, je vais essayer d'être synthétique. Je vous prie de m'excuser.
Merci. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez dit votre intérêt pour l'animisme. Et est-ce que vous avez été inspiré par la religion chrétienne dans laquelle le corps a une place de premier plan, notamment par le martyr de la croix et aussi par la résurrection?
Évidemment. Alors, moi, je suis né dans une famille catholique, donc rochelaise. Ma mère, mon père, non, était anticlérical, d'ailleurs, gaulliste, anticlérical. J'ai été enfant de cœur, donc je suis au catéchisme, j'ai été enfant de cœur, j'ai fait la communion, etc. Donc j'ai une grande connaissance de la religion chrétienne, y compris de la théologie, puisque j'ai étudié moi-même la théologie au regard notamment du protestantisme, du cœur religieux du XVIe siècle, comme on dit, donc toutes les différences qu'il peut y avoir entre le christianisme, les différents christianismes, que ce soit le catholicisme ou avant les monophysites, etc., les protestants, les zwingliens, les mélanctoniens, bon, les évangélistes, les etc., etc. Donc oui, notamment quand on voit ce livre sur l'image corps, l'Occident est travaillé par le corps du Christ, incontestablement. Il est toujours présent, et même des artistes non-croyants. Je pensais par exemple à un artiste comme Yann Fabre qui vit Gina Panet. Il y a énormément d'artistes qui se sont inspirés évidemment du Christ, parce que comme le dit Yann Fabre, qu'un artiste vraiment plutôt intéressant, il dit, moi je ne crois pas donc en Dieu, mais il dit, le Christ pour moi a toujours été un interlocuteur passionnant, vous voyez, hein, donc cette idée, voilà, donc de fait oui, mais je vois pas comment nous, en tout cas ma génération encore, nous pouvions en milieu rural y échapper, puisque l'emprise, on pourrait dire sans connotation péjorative, mais l'emprise du religieux était extrêmement forte encore, hein, sur les campagnes. C'est très différent aujourd'hui, bien évidemment, où là, il y a une déchristianisation incontestable. Enfin, bon, y a plus, les églises sont vides, quoi, clairement. En Bretagne, je ne sais pas, mais je peux vous dire que La Rochelle, en plus, il y a une tradition anticléricale, protestante aussi, même les temples protestants, d'ailleurs, sont vides. Enfin bon, ce sont des terres de mission, comme on dirait maintenant, c'est des terres sans Dieu, hein, d'une certaine façon. Voilà. À l'exception des musulmans qui viennent avec l'immigration, qui sont assez nombreux, bon, ce sont des terres sans Dieu. Mais la figure, évidemment, du Christ est une figure éminente. Enfin, c'est tout à fait éminent, bien sûr. Et même pour moi, personnellement, le Christ est un compagnon dans ma vie. Vous voyez, voilà, quand bien même j'ai pu être un moment marxiste, c'est quelqu'un... J'ai toujours l'évangile dans la tête. Voilà, qu'est-ce qu'il dit à tel moment? Pourquoi il dit ça? Est-ce que c'est bien de dire ça? Vous voyez, pas bien, vous voyez, bon. Mais ça fait, c'est la culture, enfin, c'est notre culture. Voilà, de même qu'on a Gargantua aussi dans la tête. Enfin, vous voyez, on a Voltaire aussi, on a Candide dans la tête. Vous voyez, on a quelques figures et le Christ, pour moi, fait partie de ces figures qui sont là. Alors, je vais être vraiment impie, comme Gilles Deleuze. Vous allez dire, mon Dieu, mais c'est horrible. Comment on peut dire ça? Mais voilà, je dis, le Christ dit ça. Qu'est-ce qu'en aurait pensé Gilles Deleuze, par exemple, le philosophe, vous voyez, ou Michel Foucault? Bon, mais ça, c'est un système mental. Je pense qu'on est tous comme ça. On est tous traversés, on est tous habités par d'autres que nous-mêmes, qui sont nous-mêmes, qui sont devenus nous-mêmes, qui ont pris racine, qui ont pris possession de nos corps. Et ma génération est encore une génération christianisée, quand bien même elle n'aurait pas de croyance religieuse. Vous voyez, voilà. Celle qui suit, c'est très différent. Jusqu'à voir mes enfants, bon, ça n'a plus rien à voir, hein, clairement. Hein. Même si ma petite fille dit « Jésus », j'adore quand elle dit « Jésus ». Voilà. Voilà, je finirai là-dessus. Vévu. Voilà, merci.
Merci beaucoup.
À moins qu'il y ait une autre question, je ne veux pas m'étendre trop longtemps. Non.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre écoute. La séance de dédicace va avoir lieu dès maintenant. Vous avez les livres de Paul Ardanne ici. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, il y a aussi un petit flyer qui présente l'association Espace d'Apparence et qui présente tout le projet si vous voulez en savoir plus. Et il est distribué ici. Merci beaucoup.